Laudetur Jesus Christus.
Enfin, un gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud. Les deux frères ennemis, Salva Kiir et Riek Machar, disent s'être mis d'accord. Le gouvernement actuel vient d'être dissous. Les détails en début de ce journal. Jour de vote demain en Iran. Les législatives se déroulent dans un contexte de crise économique et politique. Le régime des Mollahs est contesté et de nombreuses voix appellent au boycott des élections. Une fusillade et une lettre pour justifier le pire. En Allemagne, le tueur présumé de 9 personnes dans 2 bar à Chicha, hier soir, a été retrouvé mort. À ses côtés, une lettre. Il appelle à l'extermination de plusieurs pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie centrale. Puis enfin, direction les archives secrètes du Vatican. Celles concernant le pontificat de Pie XII seront ouvertes aux historiens à partir du 2 mars. Des éléments supplémentaires concernant le rôle du Saint-Siège durant la Seconde Guerre mondiale devraient être mis à jour.
Le journal Marine Henriot.
Bonsoir à tous. C'est une annonce qui était très attendue. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef des rebelles Riek Machar vont former un gouvernement d'union nationale samedi prochain, le 22 février, à la date butoir. Une étape décisive pour mettre fin à 6 années de guerre civile qui ont ravagé le pays. Les deux hommes se sont rencontrés aujourd'hui à Juba, la capitale. Les précisions d'Hélène Détombe.
Le président sud-soudanais a annoncé la dissolution dès aujourd'hui du gouvernement et la nomination de Riek Machar ce vendredi à l'un des postes de vice-président, comme le prévoit l'accord de paix conclu en 2018. Un nouveau gouvernement sera formé ce samedi. Salva Kiir promet une nouvelle ère de paix. Riek Machar se dit confiant. Cet accord a été annoncé depuis la capitale du Soudan du Sud après de précédentes tentatives qui s'étaient soldées par des échecs. À l'approche de la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, les négociations s'étaient accélérées ces derniers jours, sous l'impulsion notamment de la communauté Sant'Egidio. Mais les deux hommes ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le nombre d'États au sein de la République fédérale sud-soudanaise. Dimanche dernier, les rebelles sud-soudanais avaient rejeté la proposition du président de revenir à un système fédéral à 10 États au lieu de 32, conformément à la constitution promulguée lors de l'indépendance du pays en 2011. La question a-t-elle été véritablement réglée ? Plusieurs experts restent sceptiques et mettent en garde contre la formation d'un gouvernement d'union nationale sans résolution de l'ensemble des problèmes.
Hélène Détombe. Et on reste au Soudan du Sud. Ce jeudi, un rapport des Nations Unies estime que l'armée gouvernementale et les différents groupes rebelles en guerre affament volontairement les civils. Les civils sont délibérément affamés, systématiquement surveillés et réduits au silence, estiment les Nations Unies. C'est un petit royaume imbriqué dans l'Afrique du Sud, le Lesotho traverse une crise politique. Son premier ministre sera inculpé demain pour le meurtre de son ancienne épouse en 2017. Le chef du gouvernement, sous la pression de son parti, a annoncé aujourd'hui qu'il quitterait ses fonctions d'ici juillet. En Israël, c'est une mesure à même de séduire l'électorat ultra-orthodoxe. Le premier ministre Benjamin Netanyahou annonce la construction de 2200 logements dans un quartier colonisé à Jérusalem-Est. Une annonce électoraliste et qui mènera à des violences selon l'autorité palestinienne. Deux militaires turcs tués à Idlib en Syrie ce jeudi. Ankara accuse l'aviation de Damas d'avoir mené le bombardement. Damas soutenu par la Russie qui demande à la Turquie de cesser son soutien aux groupes terroristes dans la région d'Idlib. Premier tour des législatives demain en Iran. Un scrutin qui intervient sur fond de crise dans la République islamique. L'économie est affaiblie, les sanctions économiques s'aggravent. Mais aussi, le régime des Mollahs perd de la crédibilité. De nombreux Iraniens avaient ainsi crié leur colère dans les rues suite au bombardement d'un avion ukrainien le 8 janvier dernier. De nombreuses voix ont appelé au boycott pour cette élection. Et beaucoup d'Iraniens doutent que les futurs parlementaires ne prennent en compte leurs attentes. L'analyse de Clément Terme, il est chercheur au CERI, le Centre international de recherche de Sciences Po.
Les attentes populaires sont très faibles puisque la population est tout à fait consciente du caractère factice de l'alternance entre réformateurs et conservateurs en République islamique qui est organisée depuis les années 90. Finalement, disparition du fondateur de la République arménienne. Et donc cette faction est un jeu de factions à l'intérieur du régime, mais tous étaient partisans de l'islam politique promu par l'ayatollah Khomeini. Donc il s'agit d'un débat interne entre islamistes. La majorité de la population iranienne souhaite une forme de normalité. Une normalité économique avec une ouverture du pays, des investissements étrangers, des échanges économiques avec l'Occident. Il y a une recherche aussi de normalisation au niveau des droits de l'homme, avec un respect des droits humains par le régime, la question des minorités, les minorités chrétiennes notamment, la liberté religieuse. Donc il n'y a pas d'espoir, de croyance au niveau populaire, d'une possibilité d'exprimer par le vote ce mécontentement et ce besoin en fait d'avoir des solutions aux problèmes de la vie quotidienne, qu'ils soient économiques, politiques ou juridiques.
Une interview à retrouver en long format sur notre site internet www.vaticannews.va. C'est une prise de parole rare, celle de Sirajuddin Rakhani, le numéro 2 des talibans, dans un éditorial du quotidien américain The New York Times. Un article intitulé « Ce que les talibans veulent », le chef du réseau, considéré terroriste par les États-Unis, déclare que les talibans sont pleinement engagés à respecter les termes d'un accord de paix avec les Américains. Après des mois de négociations au Qatar, Washington et les talibans seraient sur le point de signer un accord impliquant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et l'arrêt des violences par les talibans. Le terrorisme d'extrême droite fait des ravages en Allemagne. 9 personnes ont été tuées hier soir à Hanau, près de Francfort. 2 fusillades qui ont visé des bars à chicha, fréquentés par la communauté kurde en particulier. L'auteur présumé a été retrouvé mort à son domicile. L'enquête est confiée au parquet antiterroriste. Les précisions de notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux.
Le tireur présumé, Tobias R., était âgé de 43 ans et proche des milieux de l'extrême droite. Il n'était pas connu de la police. Il a laissé une lettre de 24 pages pour justifier son acte, ainsi qu'un message vidéo, tous deux assez confus. Il y est question des États-Unis, d'un message à l'attention des Américains, dans lequel il évoque la présence de structures militaires souterraines dans laquelle des enfants seraient victimes de violences. Il évoque également le diable et le fait de ne jamais avoir eu de relation avec une femme. Surtout, il appelle à l'extermination de populations d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, affirmant que la science prouve que certaines races seraient supérieures aux autres. L'Allemagne redoutait depuis des mois ce type de scénario terroriste dans un contexte de dégradation continue du climat politique. Plusieurs manifestations de soutien aux victimes sont prévues à travers le pays dans la soirée. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
Et après cette double fusillade, Angela Merkel a fustigé le poison du racisme en Allemagne. Le racisme est un poison, la haine est un poison, et ce poison existe dans notre société, a déclaré la chancelière. Et Monseigneur Gerber, l'évêque du diocèse de Fulda, où se trouve la ville d'Hanau, s'est dit affecté et choqué dans une interview à Vatican News. Une manifestation aura lieu ce soir en mémoire des victimes et pour défendre une culture de la rencontre et de la fraternité. Dès le 2 mars prochain, un pan important de l'histoire de l'Église et de la papauté pourra être étudié de plus près par les chercheurs, le pontificat de Pie XII, avec l'ouverture des archives du Saint-Siège concernant une période allant de 1939 à 1958. L'Église n'a pas peur de l'histoire, avait affirmé le pape François en annonçant cet événement l'année dernière. Des éléments supplémentaires concernant le rôle du Saint-Siège concernant la Seconde Guerre mondiale devraient ainsi être mis à jour. Mais être mise au jour, c'est ce qu'a expliqué ce matin Johan X lors d'une conférence de presse au Vatican. Il est directeur des archives historiques de la section des rapports avec les États de la secrétaire d'État.
Il y a deux nouvelles documentations, sûrement internes aussi. En effet, dans les actes et documents publiés déjà, on a trouvé quand même pas mal des démarches du Saint-Siège auprès des gouvernements Slovaquie, hongroise, allemand, pour changer les lois qui concernaient les juifs ou les juifs baptisés. Et on va voir maintenant peut-être beaucoup plus de matériel, trouver beaucoup plus. Parce que, naturellement, ce n'est pas seulement tous les documents officiels, mais il y a aussi la documentation interne. Toute la discussion au sein, disons, de la sécurité d'État, qui en effet, avec le pape, quotidiennement, doit décider sur des situations graves et terribles. Et qui n'a pas tellement, parce que le Saint-Siège était elle-même menacée chaque jour. Elle était complètement détruite en Pologne par les Allemands. Elle était dans des autres pays avec une occupation naziste détruite, et au même temps les bolchevistes de l'autre côté à Pologne, au début de la guerre. Vous voyez, elle était aussi dans une situation vraiment menacée, et le pape le savait.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.